avec votre esprit. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait de la foule ces paroles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache chez lui. Dans sa joie, il va vendre et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche les perles. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle.
Louange à toi, Jésus. On dit de Molière que c'est un des grands géants de la littérature française. Nous savons qu'il a vécu au XVIIe siècle. C'était un écrivain très exceptionnel, un dramaturge et puis un comédien. Et dans une de ses œuvres, que vous connaissez sans doute, L'Avare. Alors là, il parle de Harpagon, qui est le protagoniste. Il explique comment Harpagon est avare, justement. D'abord, devant tout le monde, il se présente comme un pauvre. Mais en réalité, c'est un grand riche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute sa richesse, qu'on peut considérer comme un trésor, et il est parti l'enfouir dans sa cour intérieure. Résultat, il n'a plus de repos. La nuit, dès qu'il entend un petit bruit, il sursaute du lit, il va voir dans son jardin si personne ne s'approche de son trésor. Durant la journée, dès qu'il voit un mouvement de suspicion, il accourt vers le jardin, regarder si son trésor est toujours intact. Finalement, sa vie devient traquée, anxieuse, tourmentée, à cause de son trésor. Cette image que nous propose Molière me fait penser aux paroles du Christ qui dit en fait dans Matthieu 6 « Là où se trouve ton trésor, là se trouvera ton cœur. » Parce que le trésor, c'est quelque chose que nous tenons à cœur. Quelque chose qui nous préoccupe. J'aime beaucoup la première lecture qui parle de Salomon. En fait, regardez la question que pose le Seigneur à Salomon. Salomon, dis-moi ce que tu veux dans ta prière. Regardez si cette question était posée à vous, à chacun d'entre nous. Demande-moi ce que tu veux maintenant. Il me semble que la réponse que nous allons donner à Dieu va être en correspondance avec notre trésor. Parce que tu vas demander à Dieu ce qui te tient vraiment à cœur, ce que tu voudrais vraiment avoir aujourd'hui. Voilà, ce sera le sens de ta prière. Mais maintenant, Salomon a compris quel était le vrai trésor. C'était Dieu. Pourquoi? Parce que, étant jeune roi, il n'a pas demandé le pouvoir. Il n'a pas demandé de régner. Il n'a pas demandé la domination. Il n'a pas demandé la gloire. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la capacité de discerner le bien et le mal. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner mon peuple. Il est parti à l'essentiel. Je repose la question, quel est ton trésor? Quel est notre trésor, nous les croyants? Eh bien, notre trésor ne peut être que le Christ, ne peut être que Dieu, ne peut être que le royaume de Dieu. Si il est vrai que notre cœur repose sur Dieu comme notre trésor, cela veut dire que c'est toute notre vie qui repose sur le Seigneur. En d'autres termes, Dieu doit rester au centre de notre préoccupation, au cœur de notre vie. De telle sorte que les relations que nous tissons, nos projets de vie, nos soucis doivent partir du trésor de Dieu et aboutir à voir leur achèvement sur le même trésor qui vient de Dieu. Donc, Dieu va rester le cœur, le phare de notre vie. C'est lui qui nous guide. notre unique préoccupation. De telle sorte que, comme croyants, croyantes, nous ne pouvons rien faire sans nous référer au trésor qui est notre Dieu. Je trouve que Paul illustre aussi très bien cet attachement au trésor quand, après sa conversion, à un moment donné, plusieurs années plus tard, il écrit aux Philippiens. Et il leur dit à peu près ceci. Il dit, ma vie passée, quand je n'avais pas encore connu le Christ, toute la gloire que je recherchais dans le passé, toutes mes préoccupations, mes projets de vie, aujourd'hui, devant le Christ, je les trouve comme des balayures, comme des immondices, parce que j'ai trouvé mon trésor qui est le Christ. Les autres choses sont rudimentaires, ne sont plus importantes, mais ce qui compte vraiment, c'est le Christ. Alors, sa vie a été transformée, a été changée par la vie de communion avec le Christ. Le pape Benoît XVI, l'ancien évêque de Rome, quand il a été intronisé le 24 avril 2005, dans son homélie, il a parlé un peu dans ce sens-là du trésor de Dieu. En fait, il s'adressait aux jeunes. Alors il disait à peu près ceci, il disait, regardez, moi votre évêque, l'évêque de Rome, j'ai eu toute une expérience dans ma vie. Et je voudrais vous encourager à ouvrir vos cœurs au Christ. Ne pensez pas que quand on s'attache au Christ, on perd quelque chose. Du tout, on ne perd rien. Plutôt, on gagne plus. Et faites confiance, ouvrez vos cœurs au Christ. Parce que quand tu fais entrer le Christ dans ta vie, à travers cette amitié-là, alors tu découvres les vraies potentialités humaines. Alors, dans l'amitié avec le Christ, tu arrives à voir exactement quel est le sens de la beauté, de la bonté, de l'amour. Parce qu'avec le Christ, finalement, tu découvres quel est le vrai sens de la vie. Voilà pourquoi il faut s'ouvrir à lui. Parce que quand on l'accueille, on s'enrichit plutôt que s'appauvrir. Le Christ ne nous enlève rien, disait-il aux jeunes. Il me semble que ces paroles-là s'adressent à vous, s'adressent aussi à moi aujourd'hui. Ouvrir son cœur à Dieu, on ne perd rien, on gagne davantage. Parce que c'est l'essentiel de la vie, c'est le cœur de notre vie. Mais maintenant, si nous acceptons Dieu comme notre trésor, c'est que comme je disais, toute notre vie va se jouer autour de cette bonté divine, autour de son amour. De telle sorte que quand nous vivons notre vie, nous lui donnons du temps. Comment est-ce qu'on peut être attaché au trésor sans qu'on lui donne du temps? Alors, ce n'est pas un trésor. Comment est-ce qu'on peut vivre sans aucune référence au trésor? À Dieu. Alors, ce n'est pas un trésor. Mais si Dieu est notre trésor, c'est que le temps, notre temps, nous allons apprendre à trouver des moments d'adoration, des moments où on garde silence, on met en communion, en contact avec Dieu, des temps où on prie, on fait des supplications au Seigneur pour le monde, pour nos amis, pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Alors on trouve du temps pour dialoguer avec le Seigneur continuellement parce que c'est notre trésor. Nous ne pouvons plus vivre sans lui. Alors, quand il demeure notre trésor, avec ce dialogue continuel, nous arrivons finalement à nous transformer, à changer, de sorte que notre vision, notre perception est transformée. Elle se rapproche à celle de Dieu. Nous commençons à voir le monde comme Dieu le voit. Nous commençons à aimer comme Dieu aime. Nous commençons à être miséricordieux, miséricordieuse comme Dieu est miséricordieux. Voilà la grâce qu'on va demander aujourd'hui, qu'on ait l'esprit de discernement comme Salomon, qu'on sache s'attacher à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour notre vie, pour avancer dans notre vie. Voyez-vous, dans notre cheminement à Saint-Gabriel, alors que nous voulons grandir davantage, nous enrichir davantage du point de vue pastoral, vous et moi, nous avons besoin de l'esprit de discernement. Pour justement capter, retenir ce qui est bon pour nous, pour notre communauté, afin de continuer à croître, à grandir et à être des disciples missionnaires. On a besoin de l'esprit de discernement. Et c'est une grâce que vous et moi, nous sommes appelés à demander au Seigneur aujourd'hui. Il y a les jésuites qui sont spécialistes dans l'esprit de discernement et ils ont toujours trois moments. Ils disent le premier moment, quand tu entends l'information, il ne faut pas l'accepter tout de suite. Il faut savoir d'où vient l'information. ça aide à discerner les choses. Quand j'étais enfant, on me disait, quand je vois quelque chose dans le journal, pour moi c'était la vérité plénière, parce que c'est dans le journal. Mais finalement, on a pas, mais non, c'est pas parce que la chose se trouve dans le journal que c'est vraiment la vérité. Voilà. Donc il faut avoir l'esprit critique, disent les jésuites. Deuxièmement, il faut savoir s'informer aux personnes qui sont plus instruites, qui sont plus spécialistes que toi dans la matière. Tu t'informes à ces personnes-là. Troisièmement, il faut savoir demander dans la prière l'esprit de discernement au Seigneur. Voilà trois moments que les jésuites nous proposent avec Saint Ignace de Loyola pour développer en nous l'esprit de discernement. Ce qui est important. Mais parlant de discernement, je me rappelle de Padre Pio. Vous vous rappelez Padre Pio qui a vécu en fait au XXe siècle, disons la première moitié, qui va jusque peut-être deuxième moitié. En tout cas, dans les années 1930, il a commencé à devenir populaire. Padre Pio, il était capucin. D'abord, dans sa vie, il a beaucoup souffert dans son cheminement. De toute façon, il est devenu prêtre. Et voilà que dans son ministère de prêtre, le Seigneur lui a donné des dons spéciaux, de telle sorte que quand il célébrait la messe, certaines personnes pleuraient. Ils sentaient dans leur cœur comment le Seigneur leur parlait, comment il touchait leur cœur. Alors, beaucoup de personnes allaient chez lui à la confession. Il y avait comme un don particulier. Malheureusement, dans son entourage, nous sommes des êtres humains, à cause des jalousies, des coups bas, de mauvaises interprétations, des choses sont arrivées à Rome d'une manière détournée. Et voilà que Rome décide de lui enlever le pouvoir de dire la messe. Il dit, durant 2 ans, il est resté comme ça sans célébrer la messe. Rester dans son couvent, parler à personne, rester caché. Lui, il pouvait dire, ah, vous me dites ça, vous, le Romain, eh bien, moi, je continue. S'il avait continué, certainement que certaines personnes allaient le suivre à cause de ses dons. Il s'est dit, je garde le silence, il a gardé son trésor, il a gardé l'essentiel, il s'est tu, il a gardé sa prière, l'humilité. 2 ans après, il est réhabilité, et devenu encore plus populaire que jamais. Et pas seulement dans son village, mais ça devient dans toute l'Italie, ça devient dans le monde entier. Et son sommet a été quoi? Son sommet a été le jour où il a été canonisé par Jean-Paul II en 2002, où à sa canonisation, on dit qu'il y avait 500 000 de personnes. Pour dire, quand tu as gardé ton trésor, tu as gardé l'essentiel, eh bien le Seigneur t'accompagne. Le trésor te fait aboutir. Il faut garder le trésor, garder l'essentiel. Et il ne faudrait pas oublier, parce que Dieu est notre trésor, nous nous tournons vers lui, nous voulons le garder au cœur de nos vies, il ne faudrait pas oublier que chacun, chacune d'entre nous est un trésor pour Dieu, parce que Dieu tient à nous, Dieu nous veut du bien, nous sommes ses enfants, nous sommes ses trésors. Je ne sais pas dans la culture canadienne-française, mais je sais que dans la culture africaine que j'ai connue un peu, il y a des enfants qu'on appelle trésors. Un enfant peut être, on peut lui donner le trésor tellement il a porté la joie à l'enfant, à la famille. C'est notre trésor, on l'appelle trésor. J'ai connu des enfants qu'on appelle trésor. Bonjour trésor. On a donné le nom pour dire que c'est quelque chose vraiment que les parents cherchaient à avoir, vraiment le trésor de ses parents. Voyez-vous, nous sommes des trésors de Dieu, chacun de nous. Et nous aussi, nous prenons Dieu pour notre trésor. Que la célébration d'aujourd'hui nous fasse grandir dans la foi. Qu'on revienne sur des choses essentielles, que Dieu continue à éclairer notre vie, qu'il soit l'unique référence de nos vies. Amen.